qu'avec Anem. Bonjour, bienvenue à ce nouveau podcast, tout nouveau, tout neuf de Forum Opéra, où j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Faure.
Bonjour.
Christian Peter.
Bonjour.
Jean-Philippe Thiellet.
Bonjour.
Et Thomas Delier.
Bonjour.
Thomas Delier, qui est en fait là un peu par hasard parce qu'il a un train très tard et qu'il a décidé de rester avec nous. On le remercie. Alors, le nouveau concept de ce podcast est extrêmement novateur. Mmh. Ensemble, nous allons voir quatre disques, trois nouveautés et un disque qui est dit de référence. Il s'agira du Don Giovanni de Carlo Maria Giulini, dont nous parlerons abondamment. Alors, pour commencer, on va entendre un extrait du dernier disque de Rolando Villafone, qui s'appelle Cielo e Mare. Justement, comme tout est bien fait, nous allons écouter Cielo e Mare.
Oh!
C'était donc Cello et Mar de Rolando Villazone, un disque paru chez Deutsche Grammophon avec l'orchestre symphonique Verdi de Milan sous la direction de Daniele Calegari. Alors, on sait que ce disque a eu une critique plutôt positive sur Forum Opéra, une critique signée François Le Sueur. Je rappelle pour les auditeurs de Forum Opéra qu'il y a une interview vidéo de Rolando Villazone sur Forum Opéra, où on peut donc entendre la voix de bronze du beau Rolando, mais aussi le voir en chair et en os, se mouvoir et parler des mains.
Et en poil,
évidemment.
Il fallait le grand angle pour le voir se mouvoir, d'ailleurs.
Voilà, donc encore une fois, en ce qui me concerne, je suis toujours ébahi par les couvertures des disques de Rolando Villazone. Alors là, on le voit ravi d'avoir marqué un but, hein. On se dit c'est 1-0 là,
et
voilà, goal, il y a plus que quelques minutes à jouer, il a marqué, il est content. Alors on devine derrière la mer, ça doit être au Mexique, car il est mexicain.
Oui. Non, il est français maintenant.
Il est français, il est devenu français.
Il a obtenu sa naturalisation.
Ah oui, c'est vrai, je l'ai croisé dans la rue l'autre jour.
Ah,
c'est vrai. Hein.
Voilà, donc ça.
Neuilly-sur-Seine.
Ce n'est pas la mer mexicaine, mais.
Neuilly-sur-Seine.
Ce qui n'est pas tout à fait la France, d'ailleurs.
La mer du Nord, on se trouve.
Il n'est pas français, il est Neuillé. Hein.
On se trouve à Trouville. Voilà, donc Rolando Villazone qui aussi avait.
À moins que ce soit au pont de Neuilly et que ce soit la Seine qu'on aperçoit derrière.
Peu importe. Donc, comme le disait Thomas Dollier pendant que nous écoutions Rolando Villazone exercer son art, le concept de cette émission a été légèrement emprunté à l'émission de France Inter Le Masque et la Plume, voire que nous réunissons quelques critiques éminents pour débattre d'un livre, d'un album. Ici, en l'occurrence, on ne parle que de disques. Nous allons donc faire un tour de table contradictoire de ce que nos éminences grises de Forum Opéra ont pensé. Je propose que nous commencions par l'aîné, Sylvain Faure. Qu'en as-tu pensé ?
Cello et Mar, d'abord, il faut dire que le disque est enregistré en mars 2008. C'est important dans la carrière de Rolando Villazone, puisque c'est la fin de son passage aux enfers.
Alors je me permets de
t'interrompre. C'est marqué mars 2008 sur le site.
C'est en mars 2007, donc je confirme.
C'est marqué mars 2007.
Car pour
sur le site, c'est mars 2008.
C'est l'apparition du.
Ah, c'est le release.
Je recommence. Opéra, toi, c'était sur.
Tu m'as piqué mon papier.
Oui. C'était enregistré en mars 2008, en mars 2007.
C'est la preuve que Forum Opéra donne des vraies.
Et bien alors, je vais changer le discours. Il avait vraiment besoin de se reposer.
Donc, pour rappeler à nos auditeurs, il est vrai que Rolando Villazone apparemment a passé une petite période de crise. Il a annulé de nombreux enregistrements et on comprend quand
Il n'était pas enceinte d'ailleurs.
Non, d'accord. On va peut-être arrêter de déconner.
C'était une allusion à l'article de Sylvain.
On n'est pas sur Rire et Chanson.
Était enceinte.
Mais non, par rapport à Patricia Petitbon et qui utilisait sa grossesse pour faire justice.
Une remarque qui nous avait valu un procès de la part de l'agent de Patricia Petitbon.
Sorti de son contexte, je vais t'assigner.
Donc voilà, c'est vrai que Rolando Villazone avait chanté des rôles très lourds comme Hoffman. Il avait donc décidé, sans doute conseillé par ses médecins, d'arrêter quelques temps. Il nous revient donc avec cet album qui a été enregistré, contrairement à ce que disait cet idiot Sylvain Faure, avant ses problèmes vocaux. Donc ce disque est un témoignage de l'art de Rolando Villazone. Donc je redonne la parole à Sylvain Faure qui va peut-être enfin nous dire quelque chose d'intéressant.
Absolument. Et bien, dans ce Cello et Mar, vous savez, ça commence par Cello et Mar. Et on est frappé par le point auquel la voix de Villazone est grevée d'harmoniques graves. Et c'est vraiment ce qui frappe dans tout le disque, et en particulier dans cet air qui vraiment sollicite beaucoup le bas médium. Et alors, sans vouloir faire le prophète, etc., en disant mars 2007, mars 2008 et après, etc., on est quand même très étonné par la texture de cette voix, qu'on a connue quand même plus lumineuse, et qui là est vraiment très très baritonnante, très très chargée. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'il a dû s'arrêter ou si c'était d'autres raisons, etc., la fatigue. Mais en tout cas, on a quand même avec Villazone, un exemplaire de plus de ces ténors qui cherchent à creuser dans les harmoniques graves pour se donner une espèce d'impact dramatique qui ne leur est pas forcément naturel. Et on a souvent dit que ça augurait de problèmes vocaux. Alors, ils sont arrivés, ce n'est pas forcément une bonne chose, parce qu'on a connu des ténors qui, tout en ayant cette technique, n'ont pas connu de crise vocale.
J'aimerais quand même préciser qu'il ne s'agissait pas, en ce qui concerne Rolando Villazone, de problèmes vocaux, mais plutôt d'un arrêt de travail pour raison indéterminée. Donc, il était peut-être simplement fatigué.
Oui, c'est pour ça que je reste.
Sa voix laissait quand même deviner des
problèmes. Non, mais il faut rester évasif. Il y avait peut-être une fatigue.
Les chanteurs
plus
sont
générale.
Tous des paresseux, on le sait très bien.
De toute façon, quand il a chanté Manon au mois de juillet en Espagne, la retransmission télé montrait bien une voix extrêmement fatiguée. des aigus, des couacs dans l'aigu.
On trouve d'ailleurs sur YouTube une vidéo très cruelle avec, avec les, une compilation des couacs de Rolando Villazone dans Manon.
Quelle horreur.
Mais dans le DVD qui est paru, ils n'y sont plus.
Non.
Ah, c'est dommage.
D'ailleurs, je voulais en profiter pour annoncer quelque chose à nos auditeurs. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de vous en parler. En 96, tout le monde le sait, a eu lieu au Châtelet une production mythique de Don Carlos, de Verdi,
oui.
Avec Roberto Alagna, Waltraud Meyer, Carita Matilda,
Thomas Sampson, José Van Damme.
J'avais vu, moi, la retransmission immédiatement sur Arte. Et au salut, on entendait un tonnerre d'applaudissements pour quasiment tout le monde. Également pour Roberto Alagna à la fin, mais surtout pour Thomas Sampson, Waltraud Meyer et Carita Matilda. Et l'autre jour, j'ai regardé le DVD, et c'est très marrant de voir que pendant tous les saluts, on entend des applaudissements très timides pour tous les interprètes, sauf pour Roberto Alagna, qui se prend une ovation pas possible. Alors j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a diminué le son
non,
des applaudissements?
Je pense qu'ils ont convoqué la famille de Roberto Alagna pour faire une reprise des applaudissements.
Il n'y a pas de raison que les applaudissements échappent à ces bidouillages de techniciens. D'ailleurs, pour revenir à notre sujet du jour, au moins au premier, Cello et Mar, je trouve qu'à plusieurs moments dans le disque, et notamment dans la Dolcissima Effigie et d'Adrienne Lecouvreur, on sent les bidouillages. Alors, on sent une reprise, on sent la voix qui n'a pas exactement la même couleur que dans la phrase d'avant. Ça fait 30 ans que ça existe, hein. Je me rappelle le bal masqué dirigé par Karajan avec Domingo à Salzbourg en 89, sauf erreur, où le dernier aigu est collé comme avec du gros scotch et même
mais
pas
là aussi il y a un aigu
invisible.
Audiblement collé, hein.
Et donc pourquoi les applaudissements échapperaient à ces bidouillages?
On se souvient aussi du si ou du contre dièse, je sais pas, de Placido Domingo dans la Traviata.
Ah oui, là, il est collé.
Là, c'est vraiment
de Carlos Clavier.
Ah, c'est le contrut, dièse, oui.
Et puisque ce thème apparaît dans la Tosca enregistrée en live dans les in situ, c'est-à-dire à San Andrea della Valle d'abord, au Farnèse ensuite.
Dans le live,
enregistré à Rome, qui avait été diffusé le jour même, avec le dernier acte à 4h du matin. Domingo se cassait la gueule au premier acte en descendant du palco où il est en train de peindre la Madone. Il se cassait la gueule parce qu'il y avait un fil qui avait été mal scotché, évidemment, dans les DVD et le VHS, tout ça avait été coupé.
Et justement, pour en finir avec les gens qui se cassent la gueule, Montserrat Caballé, dans la vidéo du voyage à Reims, capté à Vienne, tombe sur son volumineux séant et on l'entend très distinctement faire « Aïe !» dans l'ensemble. Et c'est formidable. Ça me conduit à ma prochaine question, à Thomas Dolly. Est-ce qu'on vous a déjà rajouté un contrut sur un enregistrement?
Non, un contrut, non, j'aimerais bien. Hein. Il y a beaucoup d'enregistrements, j'aimerais bien.
Moi, je trouverais ça beau que vous rajoutiez un contrut dans une mélodie de Schubert.
Avec une voix de synthèse, peut-être. Ouais.
Ça doit être faisable
aujourd'hui.
Ouais. Il faut quand même reconnaître que l'aigu collé ou l'aigu discutable, etc., c'est quand même l'apanage des ténors qui ont quand même beaucoup à faire pour donner un aigu. Enfin, je veux dire, il y a quand même un effort athlétique. Thomas Delier, qu'est-ce que vous en pensez? Entre donner un fa dièse et donner un contrut?
Je sais pas, franchement, je pense que les voix, justement, les tessitures sont telles que un aigu de ténor, un aigu de baryton, si on est bien dans sa voix, c'est aussi difficile pour l'un que pour l'autre. Je vois pas vraiment de différence. Par contre, je pense que la façon de chanter de Villazone et de ces ténors-là, effectivement, fait qu'en cherchant toujours une couleur très sombre et à favoriser les graves, forcément, on perd de la facilité dans l'aigu. Et du coup, le problème, c'est pas que cette technique-là induit des problèmes vocaux systématiquement, mais si on ajoute à ça un rythme effréné, comme c'est le cas des chanteurs à ce niveau-là, là, oui, on arrive très vite à des fatigues. Et du coup, l'aigu, c'est la première chose qui disparaît. Hein, ça, c'est.
Je me souviens d'avoir entendu Villazone à ses débuts, pratiquement dans la Traviata à l'Opéra Bastille, au début des années 2000. Où il remplaçait Vargas, et dans la cabalette de son grand-père, il donnait le contre dièse, contre ré,
avec facilité. Dièse, hein.
Oui, oui. Dièse, oui. Et puis bon, maintenant il ne le donne plus. Et alors pour en venir au disque. Moi,
voilà, donc justement, Christian Peter, votre avis sur ce disque dont nous débattons.
Je trouve qu'on lui dit que les ingénieurs du son ont essayé de lui fabriquer une fausse voix de ténor dramatique. La voix est très en avant, elle a l'air très large. Alors que, bon, il faut bien dire qu'en scène, c'est une voix un peu confidentielle.
Jean-Philippe.
Moi, je trouve qu'il y a quand même trois bonnes nouvelles et deux sujets d'inquiétude. Trois bonnes nouvelles, c'est d'abord que...
Petit A.
Il faut savoir que Jean-Philippe Thiellet a vraiment le physique de Lénard, en l'occurrence.
Oui, mais pas la cravate, ça c'est Sylvain qui l'a aujourd'hui. Bon, alors, plutôt que de dire des bêtises, on va parler du disque. Donc, je trouve que...
je trouve que la voix paraît quand même en bon état. C'est-à-dire que globalement, lorsque on l'a entendu sur scène les dernières fois, c'était quand même complètement incontrôlé. L'émission partait dans tous les sens, complètement ouverte la plupart du temps, ce qui avait une répercussion sur la prononciation. Là, je trouve que tout ça est bien contrôlé, ce qui prouve un certain effort sans doute, une réflexion préalable. Ensuite, les amateurs de Villasonne peuvent quand même retrouver l'engagement, parce que dans les récitatifs, par exemple, qui est pas facile, à l'ouverture de l'air de Gabriel Adorno dans Simon Boccanegra, il y va quand même à fond, et ça, on retrouve le Villasonne qu'on aime. Et donc ça fait des bonnes nouvelles. Alors sur les inquiétudes, je trouve qu'il y a un défaut qui s'aggrave.
Je n'ai pas suivi ton petit C.
Mais parce que je pensais que si je disais qu'il y avait deux bonnes nouvelles et deux inquiétudes, ça ferait encore plus plan. Donc il y en avait trois, mais j'en ai retiré une. Et donc sur les inquiétudes, je trouve que les attaques, il prend les attaques par en dessous. Et ce qui était une marque de fabrique à l'origine a tendance à devenir un défaut. Et je trouve qu'il s'entend de plus en plus. Et enfin, vous l'avez dit déjà, les aigus sont de plus en plus tendus. Et j'ajouterais que sur les voyelles, sur les i, ça a tendance à partir dans le nez, et donc...
Mais ça a tendance à gratter, surtout. Hein.
Voilà, nous sommes un peu pris par le temps. Moi, je me permettrai de conclure à propos de ce disque, qu'en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter, ce qui est déjà, à mon avis, la première chose à prendre en compte quand on écoute un disque, c'est de prendre du plaisir. Et aussi, une petite félicitation à Rolando Villazone, qui n'en est pas à son premier récital discographique, et qui, cette fois, fait preuve d'originalité dans le choix des morceaux. Il y a du Mercadante, du Ponchielli, bon ça évidemment c'est un tube, du Giuseppe Pietri, du Gomez, et aussi un air plutôt rare de Paul Yuto qu'on avait entendu par le grand Franco Corelli. Nous allons à présent...
un mot, je vais quand même dire que pour une fois, un ténor ne nous offre pas le florilège attendu, et en même temps...
Il l'a déjà fait.
Alors, il l'a déjà fait, il ne pouvait plus le faire.
Oui, non, mais en même temps, il a vraiment trouvé des choses qui conviennent à sa voix, c'est-à-dire que il n'a quand même pas essayé de se mesurer à des choses impossibles.
Merci Sylvain. Nous allons à présent écouter Scherzain Fida, extrait d'Ario Dante du dernier album de notre ami Philippe Jaroussky, qui a fait couler beaucoup d'encre sur Forum Opéra et ailleurs. Voilà, Scherzain Fida, issu de Caristini. Voilà Philippe Jarouski dans Scherza Infida Ario Dante, le dernier disque de Philippe Jarouski paru chez Virgin Classics. On précise au passage que Philippe Jarouski a aussi prêté son concours à l'enregistrement de Nisi Dominus de Vivaldi, paru chez Naïf, disque qui bat absolument tous les records de vente, c'est fou. Au Midem, on avait vu qu'il arrivait quasiment au même chiffre que Mika. Alors Philippe,
la même voix. Hein.
Philippe Jarouski, le prochain Mika, je ne sais pas. En tout cas, nous allons nous tourner vers Jean-Philippe Thiellet pour savoir ce qu'il a pensé de ce magnifique album. Une fois n'est pas coutume, Philippe Jarouski est bizarrement accoutré, mais ça, on y reviendra plus tard.
Oui, bon, je préfère garder mon temps de parole pour plus tard, parce que vraiment, non, ça m'intéresse pas beaucoup. Je trouve qu'il y a des... J'en cherchais avec Sylvain, mais il va pas oser le dire, donc moi je le fais, des comparaisons. Alors il hésitait entre une... C'était quoi ? C'était une grosse dame qui veut se faire plus grosse que Callas devant sa glace. Moi je pensais que c'était plutôt un oiseau qu'on avait serré trop fort et qui faisait quick. Parce que vraiment, notamment dans Ario Dante, mais aussi dans les airs de Mozart, la Clemens Additit, entre autres, c'est pas crédible. Alors il vocalise très bien.
J'ai pas entendu l'air de la Clemens Additit sur ce
de Mozart, c'est celle de Hasse.
Ah bon. Comme je l'ai pas écouté, voilà, j'ai cherché justement la liste.
Ce qui est formidable, c'est quand un critique balance des choses absolument ignominieuses et qu'après il se fait prendre à son propre piège en disant des choses totalement fausses. J'espère
au moins on s'en rend compte.
Je trouve que Jarouski est fantastique.
Je trouve d'ailleurs que dans les adieux de Votan, ça manque un petit peu de. Christian Peter.
Oui, alors Scherza Infida, c'est peut-être pas le meilleur morceau du disque. Je trouve que c'est très maniéré, c'est très. Puis on a des références dans cette ère-là. Ça manque de testostérone. On dirait une petite fille à qui on a piqué son jouet.
Décidément, c'est on est chaud. Dans la métaphore ignominieuse aujourd'hui.
Bon, en revanche, je trouve très bien dans les airs...
L'orchestre,
mais aussi dans les airs qui demandent la coloratour. Il a une agilité, une facilité.
C'est étrange,
une énergie.
En général, on a tendance à taper sur Emmanuel Haïm, mais j'ai l'impression que pour une fois, il y a un consensus autour d'elle. Tout le monde l'aime, dans ce disque-là en tout cas.
Oui.
Mais j'ai toujours aimé Emmanuel Haïm.
C'est pas ce que tu disais au dernier podcast qui a été perdu malheureusement dans l'incendie des locaux d'Abeille Musique.
C'est faux, j'ai toujours aimé Emmanuel Haïm et ce qu'elle fait dans ce disque est très remarquable. Et l'introduction de Scherza Infida que j'ai écoutée, et c'est vraiment prodigieux. Il y a une espèce de pulsation vraiment prodigieuse. Quant à Jarouski, moi c'est pas mon genre de voix du tout, ni forcément mon genre de répertoire, ni forcément mon genre de voix, et pourtant là j'ai été vraiment bluffé. En fait, j'ai écouté au début, ça me hérisse le poil littéralement, ces voix un peu contrefaites, et en fait c'est un musicien hors pair, un musicien qui phrase, qui effectivement est virtuose, mais je trouve que dans Scherza Infida on l'entend faire des choses à mon avis meilleures que les fameuses références que tu as en tête, Christian, qui sont Fonauteur ou des gens comme ça.
Oui, Lauren Hunt.
Ouais, voilà. Moi je préfère.
Alors là, je
rappelle qu'on a reproché souvent à Jarouski d'avoir trop de testostérone.
C'est vrai ?
Ben pas là, en tout cas.
J'ai lu des critiques qui disent oui, mais enfin, on peut pas croire qu'il est vraiment un castrat. Il pose au castrat, mais enfin, on peut pas lui demander non plus.
On pourrait le mettre contre David Daniels sur un ring.
Alors, mais en ce qui me concerne, j'ai adoré ce disque. Je suis content de le dire parce que j'ai rarement été tout à fait séduit par l'art de Philippe Jarouski. Je trouve que sa maison de disques, son agent, que sais-je, ont tendance à trop forcer sur son côté virtuose, alors que le vrai joyau qui sommeille en Philippe Jarouski, c'est sa musicalité. C'est un musicien absolument hallucinant. Sinon,
mais n'es-tu pas en train de répéter ce que je viens de dire ?
Exactement, car tu as toujours été mon modèle. mais donc là, je le dis, je le répète, c'est un disque où Philippe Jarouski fait preuve, c'est vrai, d'une très grande virtuosité. Au-delà de la virtuosité, il y a un musicien qui, moi, m'a quasiment tiré des sanglots, en tout cas, m'a donné la chair de poule. C'est un disque dont je vous recommande très fermement l'achat, d'autant que, comme je le disais tout à l'heure, Emmanuel Haïm est tout à fait à la hauteur. Et c'est un programme intéressant.
Très
donc,
intéressant.
À côté des inénarrables Farinelli dont on a eu un paquet par le passé, parfois des disques très intéressants, voilà, on s'intéresse à l'art de Caristini. On peut peut-être se tourner vers Thomas Delier qui nous disait qu'il ne l'a pas écouté mais qu'il l'a offert à quelqu'un.
Oui.
Parlez-moi.
On voudrait savoir à qui.
Oui, à qui d'abord. Parlez-moi de ce principe. Vous n'écoutez pas les disques, vous les offrez.
Oui, non, c'est quelqu'un, je sais, qui aime beaucoup les voix de contre-ténor. Donc je connais un peu Philippe Jarouski. Je lui fais confiance pour justement pour ce côté-là. C'est vraiment un virtuose et un virtuose aussi de la musicalité, c'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut faire et il le fait de manière parfaite et sans aucun risque.
Est-ce que vous avez travaillé avec lui ?
J'ai jamais travaillé avec lui. On a fait un concert audition à Londres tous les deux, donc je l'avais entendu un petit peu là.
Vous avez dû le croiser au Victoria Music parce que.
Non, il n'était pas là.
Pourtant, il est là chaque année.
Il n'était pas là. Il a gagné quelque chose d'ailleurs, pour ce disque-là.
Il a gagné quelque chose. Donc, Philippe Jaroussky est comme Nathalie Dessay, un des abonnés des Victoires de la Musique. Il n'y a pas de Victoire de la Musique sans Nathalie Dessay ou sans Philippe Jaroussky.
Sans Philippe Jaroussky, bien sûr.
Il pourra rester plus longtemps, puisqu'il est encore plus jeune.
Il pourra rester.
Après, c'est vrai que la couleur de la voix est particulière, donc on aime ou on n'aime pas, mais la musicalité est vraiment, vraiment virtuose. Ouais.
Voilà, merci beaucoup Thomas Delier. Nous allons maintenant écouter un extrait qui vous concerne plus, vu qu'il s'agit d'un baryton. Il s'agit de Monsieur Gerhaher, dont le prénom est, Sylvain.
Christian.
Christian Gerhaher, je ne connaissais absolument pas. Il a sorti ce disque chez RCA. Il s'agit d'un disque de mélodie de Schumann qui reprend notamment les Kerner. Voilà, il s'agissait donc de Christian Gerhaher, j'ai du mal à le prononcer, disque qui s'appelle Mélancolie, voilà, qui regroupe des mélodies de Robert Schumann. Nous avons écouté la première place, donc le premier extrait donc des Kerner de Robert Schumann, l'opus 39, In der Fremde, dont Jean-Philippe Thiellet va nous donner une traduction instantanée.
Dans le lointain, mais on pourrait dire aussi... À l'étranger.
Alors, j'avoue humblement que je ne connaissais pas du tout ce baryton, et c'est Sylvain Faure qui m'a donné l'envie de programmer ce disque parce qu'il l'a critiqué pour
diapason. Il a avec Peter Schreier, non, mais ça vaut mieux. Hein.
Il l'a critiqué pour diapason et il lui avait donné un diapason d'or, et Dieu sait pourquoi ce diapason d'or a sauté lorsqu'on a relu l'article. Il a eu 5 diapasons. Alors, est-ce qu'RCA ne donne pas assez de budget pub à diapason? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'aimerais parler
Non, c'est faux. RCA donne beaucoup d'argent à diapason.
Mais pas autant que Deutsche Grammophon.
Non, mais ils ont eu la mauvaise idée de me donner la moitié de leur subvention. Et donc, c'est celle directement pour diapason et écrivant. Pour ce qui est de Gerhaher.
Ah non, je vais commencer car à tout seigneur, tout honneur. Je trouve ce disque absolument fabuleux. Alors, il y a des versions. Oui, il y a des versions. Mais c'est un peu mon problème aujourd'hui. J'ai pris que des disques que j'adorais.
Donc, tu as surtout pris des vitamines.
J'ai pris des vitamines. Alors,
c'est le printemps.
C'est le printemps, voilà, on bourgeonne. Surtout toi, d'ailleurs.
Quelle horreur. Vous êtes la Patricia Martin de cette émission, celle qui aime tout, parce qu'elle a plu.
Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce gros bouton que tu as sur le nez ?
C'est le printemps.
Non, il faut donc rendre hommage
à la barbe de Camille qui bourgeonne.
Il faut donc rendre hommage à cet artiste fabuleux, avec des harmoniques aiguës. Hallucinante, ça me rappelle un peu le jeune Holzmeier de temps en temps, avec plus de corps dans la voix, moins de nasalité, enfin, et un art consommé de la diction.
Tu vas nous dire qu'il parle bien l'allemand aussi bientôt.
Il parle aussi très bien l'allemand, mais ce qui n'est pas le cas de tous les germanophones.
Nein.
Exactement.
Peter Schreier dans son disque d'air de Noël.
Allemand.
Voilà, un allemand terrible.
Benoît XVI aussi d'ailleurs.
Avec un accent munichois à couper au couteau.
Alors vraiment, je trouve que ce disque aurait mérité un diapason d'or. Et pour les amateurs de, l'élite, s'il vous plaît, précipitez-vous dessus, car on ne comptera pas sans Gerhaher dans les prochains grands chanteurs de lead. Gerhaher, bien sûr, et Thomas Delier. Christian Peter.
Oui, alors moi, j'ai adoré ce disque. Quand je l'ai écouté, j'étais scotché du début à la fin. Je trouve d'abord que le timbre est extrêmement séduisant et personnel, en plus, on le reconnaît entre mille. Je trouve personnellement que le timbre est beaucoup plus intéressant que celui d'un Matthias Görne, par exemple. Il a une très grande musicalité, il a un sens des nuances, tout est parfait. Il y a vraiment, et puis l'accompagnement au piano aussi est remarquable.
L'accompagnement, on peut le rappeler, est de...
C'est Gerold Huber, non ?
Voilà, de Gerold Huber, qui est le petit-fils du Reichsmarschall Göring.
Et puis, outre les Kerner Lieder, il y a un programme très important. Il y a 29 plages et des cycles de Schumann rarement enregistrés, enfin pas aussi souvent que
les Kerner, c'est un
non mais il y a
c'est
les
le cello Emard de la mélodie.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a cette mélodie d'ouverture dont le titre est dans le titre du disque est inspiré, mais le mélancolique est vraiment magnifique. Jean-Philippe.
Et pas un instant on ne ressent de monotonie malgré la longueur. Il y a 29 mélodies.
29 mélodies, oui, un disque long, complet, intelligemment construit et vraiment un artiste absolument remarquable.
Oui, moi je le connaissais pas, alors j'ai cru que c'était une blague de Sylvain qui nous avait passé un jeune Fischer Dieskau inconnu, quoi qu'il y a déjà un peu de vibrato, parce qu'il a du métier le monsieur, enfin c'est pas
un perdant de l'année, non.
Mais je trouve que la familiarité avec Fischer Dieskau est frappante. Il y a plusieurs tics même, mais la voix
J'avais interviewé Dietrich Henschel il y a très longtemps, et à l'époque je trouvais que son timbre ressemblait à Fischer Dieskau, et je lui ai dit, ça vous énerve pas qu'on vous compare à Fischer Dieskau? Et il m'a dit, oh, vous savez, quand on est chanteur de lead aujourd'hui, c'est un peu comme quand on est pianiste, on est comparé à Richter. Eh ben, les chanteurs de lead, ils sont comparés invariablement à Fischer Dieskau.
Mais c'est pas comparé, parce que c'est pas comparé, c'est même c'est, mais
ils ont
c'est
tous
à l'oreille,
ils
c'est
ont,
très très
ils
frappant.
Ils ont tous un petit quelque chose de Fischer Dieskau.
Dans la manière de, ouais, la manière
Gilson,
de blanchir.
Gilson chante aussi comme Domingo. Hein.
Non.
Si, il y a des couleurs. Hein, des couleurs.
Bah là, c'est beaucoup plus net, la manière identique. De blanchir certains, de faire des demi-teintes.
Villazone est un descendant direct de la lignée Domingo, à mon avis. Mais revenons-en à Gerhaher. Comment prononce-t-on ça, Sylvain?
Eh bien, je pense qu'on ne le prononce pas.
On ne le prononce pas.
On se contente de le lire.
Mais admettons que Madame Dugenoux, qui nous écoute à Paimpol aujourd'hui et qui veut aller à la Fnac de Paimpol acheter ce disque, que demande-t-elle?
Je pense qu'avec le chevelu sur la pochette, parce
qu'il faut qu'elle demande.
Elle risque d'avoir le dernier disque de Mika.
Ah ben oui, mais alors là, c'est quand même pas du tout la même.
Je pense que Christian Grehard pourrait tout à fait faire l'affaire.
Enfin, je rappelle que le prochain invité du podcast de Forum Opéra sera Mika, justement.
C'est Sylvain. Bien, ça me permettra de savoir qui c'est.
Mais Sylvain, donc il y a deux petites filles en bas âge, ne paye rien pour attendre. Donc. Sylvain, donc justement toi qui nous as suggéré ce disque.
Oui, je suis très fier et très content qu'il vous ait plu.
Merci Sylvain.
D'abord. Ensuite, Christian Gerhaher, c'est un chanteur de lead que je suis depuis quelques années. Et il faut savoir qu'il a réalisé le Winterreise, le voyage d'hiver de Schubert, la Belle Meunière et le Schwanengesang, donc les trois cycles schubertiens qui sont réunis dans un petit coffret pas cher. Je ne crois pas que ce soit chez RCA. Et c'est splendide, c'est magnifique. À mon avis, la version du Winterreise de Gerhaher, toujours avec le même pianiste, est parmi vraiment les toutes premières et elle est très méconnue. Et donc, ce disque Mélancolie, il va nous permettre de le découvrir à nouveau, mais cette fois chez Schumann. Et c'est, à mon avis, très prodigieux. Ce qui me frappe le plus chez lui, et vraiment qui le distingue complètement, c'est cette façon qu'il a de dire le texte sans faire de diction. C'est-à-dire en fait de ne pas souligner les mots, de ne pas faire d'effet de consonne comme pouvait faire Fischer Dieskau, au contraire, mais vraiment de trouver dans la ligne de chant et dans la narration la suggestion. Ça, c'est vraiment formidable. Et son pianiste est extraordinaire.
Il a une souplesse de l'instrument fabuleuse. Quand il en voilà. fait ce qu'il veut.
Donc justement, Thomas Delier, est-ce que vous avez une souplesse de l'instrument?
Bonne question.
L'épouse de Thomas Delier au téléphone qui va témoigner dans quelques instants.
Non, mais en tout cas, c'est un chanteur que moi j'aime beaucoup aussi. Je l'avais vu dans Papageno, justement.
Oui.
Et j'avais été un peu déçu parce que son Papageno est un petit peu, je dirais, placide. Ouais. Pas très énergique scéniquement. Mais alors, des trésors de phrasés, justement, de mots. Et après, quand on le réentend dans le lead, effectivement, c'est magnifique.
C'est un chanteur vraiment très sérieux, en fait. Hein. Oui. Il a chanté Papageno, mais c'est pas un blagueur. Ouais,
mais c'est pas quelqu'un qui fait énormément de scènes, d'ailleurs. Non, hein. Il fait pas beaucoup d'opéra, mais par goût, je pense.
Mais par goût, par tempérament. Voilà, il fait pas mal de.
Il a tout à fait les moyens pour en faire.
Moi, je me demandais justement en écoutant ce disque, quel est le volume de sa voix. Est-ce que c'est un volume très confidentiel?
C'est pas une voix énorme, mais c'est pas une. Non, c'est pas. Enfin, c'est tout à fait.
On le retrouve.
Il a chanté le Comte à l'Opéra du Rhin aussi. C'était très bien. Ça passe très bien.
Le prochain comte de l'Opéra du Rhin sera Ludovic Tézier.
Ah oui, oui.
Et on le retrouve, Gerhard, pour son actualité, dans Le Paradis et la Pairie, dirigé par Nicolas Arnoncourt, toujours chez RCA, où il est vraiment fantastique. D'ailleurs, l'enregistrement est très beau.
Voilà, j'avais envie de demander à Thomas Delier, qui nous fait le plaisir d'être là, vu qu'on parle de Schumann, quels sont vos modèles justement dans l'interprétation du lead et de la mélodie française?
Mais c'est vrai que Fischer-Dieskau, c'est vraiment une ombre tutélaire dès qu'on s'attaque au lead allemand. Quoi. Il faut se positionner par rapport à Fischer-Dieskau. Soit on essaye de faire comme lui, soit on dit qu'on ne veut surtout pas faire comme lui.
Mais qu'est-ce qu'on apprend, par exemple, quand on est jeune chanteur en écoutant Fischer-Dieskau?
On apprend une exigence face au discours musical et à l'effet. C'est-à-dire que Fischer-Dieskau, il a une voix très particulière, il a une diction très particulière qui est très soulignée, justement, avec des R très roulés, des consonnes très fortes. Mais les climats sont très identifiés. C'est extraordinairement pensé. Quand on le voyait en récital aussi, on était immédiatement dans l'univers qu'il créait. Et ça, on l'apprend vraiment avec Fischer-Dieskau. Moi, je l'ai jamais vu. Non, je l'ai jamais vu. Mais ça s'entend aussi au disque et en vidéo. Et puis des gens qui l'ont vu m'ont raconté. Et c'est on apprend ça, avoir une vision. Moi, souvent, quand je décide d'aborder une œuvre, un lead nouveau, j'écoute toujours la version de Fischer-Dieskau. Et
la mélodie française,
une vision.
Pour la mélodie française?
Pour la mélodie française, moi j'écoute beaucoup Gérard Souzé, une voix que j'aime beaucoup.
On en
dans
le, parlé,
la mélodie. Là aussi, parce que c'est à la fois. Et alors, Fischer-Dieskau, en général, je me positionne et j'aime pas trop, finalement.
Oui.
Je trouve ça toujours passionnant. Et donc j'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas envie de le faire pareil. Quoi. Et quelqu'un comme Pry, par exemple, comme Herman Pry, me touche beaucoup plus. Parce qu'il y a un naturel, un corps, et en même temps la même subtilité, la même qualité vocale et la même qualité de texte.
Et les barytons en anglo-saxon.
Et Souzé, c'est un peu pareil. Il ne tombe pas trop dans le côté mélodie française un peu caricaturale. Il y a toujours du corps dans la voix, en même temps la diction est parfaite.
Et c'est un grand chanteur de lead allemand aussi.
C'est quand même
merveilleux ce qui vient de se passer ici dans le studio d'Abeille Musique. On a cité le nom d'Herman Pry et deux critiques un bout de la table ont eu pris un air ravi et deux autres ont tiré une tête absolument abominable.
Pas du tout.
Ouais, oui, non, c'est très bien.
Ravis, Herman Pry, c'est fantastique.
C'est un très très grand.
Le Dichterlieb par Herman Pry, c'est magnifique.
C'est vraiment un problème.
Oui, tout à fait. Même tout le cycle, les trois cycles de Schubert.
Oui.
Qu'il a enregistré à deux reprises.
Et ce qui est incroyable, c'est que c'est devenu introuvable.
Oui, oui. Introuvable.
Alors moi, je conserve précieusement les quatre coffrets Philips qui ont été publiés en Allemagne il y a 15 ans. Mais c'est introuvable. On trouve ça vraiment par bribes chez des disquaires, des revendeurs. Mais en édition courante, il faut vraiment chercher à l'import. Enfin,
voilà. En ce qui me concerne, je ne m'en plaindrai pas. Nous allons passer maintenant à la pierre angulaire de cette émission. La pierre angulaire de cette émission, qui sera l'écoute donc d'un extrait du Don Giovanni de Carlo Maria Giulini. Avant ça, j'aimerais évoquer avec nos invités quelques faits d'actualité brûlante relevés sur le forum de Forum Opéra. Alors, on sait que ce qu'il y a de formidable sur les forums sur Internet, c'est que des gens très importants, peut-être Gérard Mortier, peut-être Nicolas Arnoncourt, interviennent sous des pseudonymes. Ils nous révèlent des choses que personne d'autre sait. Alors, nous avons appris, par exemple, cette semaine, la mort d'Enzo Strodel.
Ah oui.
Voilà.
Non.
Si, tout à fait. Mais j'ignore totalement qui est Enzo Strodel, là. Alors, tout le monde avait l'air épouvanté. Est-ce que quelqu'un sait qui est Enzo Strodel, là?
Oui, absolument.
Moi, je peux le dire.
Oui?
Ah non, je peux.
Voilà, donc nous aurons une pensée émue pour Enzo Strodel, là, qui est mort et qui, en plus, provoque une indifférence totale.
C'était un chanteur?
Probablement.
Strodel?
Strodel, là.
Enzo?
Oui, c'est un peu comme Stradel, là.
Non, sans doute un produit de l'Axe Rome-Berlin à la glorieuse époque.
Voilà, donc le décès d'Enzo Strodel qui aura provoqué l'émoi dans les chaumières de France et de Navarre. Autre fait d'actualité particulièrement triste, c'est la retraite annoncée d'Edita Gruberova pour 2012. Alors
est-ce que vous avez vu samedi soir sur Mezzo l'inénarrable Rigoletto avec Vixel, Pavarotti,
le bonnel.
Oh, magnifique.
Alors ce Rigoletto,
mort de rire.
Ce Rigoletto est la pièce à montrer à un jeune homme ou une jeune fille pour le dégoûter à tout jamais de l'opéra. Alors moi, on notera au passage les cascades de Pavarotti qui saute du balcon et qui atterrit sur son cheval.
On peut aussi le montrer à un apprenti coiffeur pour le dégoûter de son métier. Parce la pauvre bête, de la Gruberova
et la pauvre bête ayant servi d'inspiration pour la chanson Stewball d'Hugo Frey après. Et puis aussi, on se souvient du duo d'amour entre Gruberova et Pavarotti, Gruberova qui court vers lui comme sur un skateboard, on ne la voit pas marcher. C'est extraordinaire. La coiffure de Gruberova, on se souvient, on en a parlé des dizaines de fois, de Brigitte Cormier qui la comparait à une grosse chatte mouillée. Et puis vraiment, la caractéristique des mises en scène de Ponelle, tout le monde a les dents gâtées, tout le monde surjoue. Pavarotti, en jeune premier, est extraordinaire, hein. Surtout au banquet avec ses rires, donc c'est fabuleux.
Alors moi, j'ai vu cette réalisation de Ponelle pour la première fois au Centre Beaubourg. C'était il y a bien bien longtemps. Et alors le Centre Beaubourg, là où on regardait les DVD
donc
d'opéra,
à
l'époque c'était des VHS, avait pour particularité, il était encore en travaux, avait pour particularité d'accueillir tous les clochards du quartier. Et donc j'ai découvert cette œuvre assis à côté d'un clochard qui regardait ça d'un œil morne. Et je dois dire que c'était très bien parce que c'était une des premières manifestations, des premières réalisations
en plus, ça
donnait du cinéma avec odeur.
Gruberova devait dégager aussi après avoir sué que, sur le plateau.
Je dois dire que le banquet de Rigoletto sur fond de vieilles vinasses, c'est absolument prodigieux.
Voilà, tu as inventé le cinéma olfactif.
Exactement.
Le cinéma olfactif. Bon, sans se moquer des clochards, on sait que malheureusement Sylvain Faure est très à droite. Et nous remettons un bonjour à nos amis clochards qui nous podcastent.
Tout en les invitant à s'éloigner de l'Opéra Bastille, parce que les plaques peuvent tomber du mur.
Mais justement, la retraite d'Edita Gruberova avec Anna Bolena, qu'est-ce que ça vous inspire, Christian Peter, vous qui la connaissez bien ?
Enfin, qui la connaît bien, c'est pas tout à fait ma tasse de thé.
Assumez.
Ben, ça m'inspire pas grand-chose. C'est triste, sans doute, pour ses admirateurs.
Et pour ses ayants droit.
Mais comme je ne fais pas partie de ceux qui traversaient toute l'Europe pour aller l'écouter, ça ne changera pas grand-chose à ma vie.
Mais on peut quand même souligner la longévité extraordinaire de cet artiste qui, a plus de 60 ans, chante encore des rôles comme Les Puritains, comme Lucci.
Oui, Zerbinette tout à fait. Encore. Hein.
Elle a chanté Zerbinette à vie, de manière absolument hallucinante.
Elle envisage les Porello pour 2014.
Elle envisage les Porello. Alors, elle a décidé de s'arrêter. Dans ce communiqué, elle précise que ce n'est pas parce qu'elle sent que sa voix ne sera plus là, mais qu'elle a enfin envie de...
Elle a à peine changé depuis 10 ans.
Voilà, elle a enfin envie de consacrer du temps à ses proches. Sylvain Faure.
C'est-à-dire que maintenant que ses enfants ont 35 et 42 ans, elle va enfin leur consacrer du temps.
Peut-être à ses petits-enfants.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça n'inspire rien à personne. Thomas Delier, vous avez chanté très souvent avec Edita Gruberova.
Non, jamais, mais moi j'aime bien Edita Gruberova. Enfin, j'ai certains enregistrements que...
Je vois pas comment on peut ne pas aimer Edita Gruberova.
Oui,
on peut contester son œuvre,
c'est assez fascinant.
Mais ne pas l'aimer, c'est quand même très étrange. C'est un peu une vieille tante généreuse qui a mauvaise haleine, mais qui en même temps a un cœur d'or.
Et moi, physiquement, elle m'a toujours fait penser au hibou dans Merlin l'Enchanteur.
C'est vrai
qu'il
l'épouse de Thomas, Thomas Delier ressemble étrangement à Edita Gruberova.
Je viens de me prendre
un sac à main, un coup de sac à main.
Edita a décidé de consacrer plus de temps au jeune Thomas Delier.
Voilà, elle va lui donner des masterclass. Alors, autre retraite, cette fois c'est pour l'année prochaine, celle de José Vandamme, qui fera ses adieux à la scène à la Monnaie de Bruxelles, dans le rôle de Don Quichotte. Alors ça, bon, on a forcément du respect pour José Vandamme.
C'est un coup de tonnerre.
Certains disent qu'il était grand temps qu'il s'arrête. Moi, j'ai encore entendu l'autre jour au récital de Lille où la voix était absolument hallucinante. Alors, la retraite de José Vandamme de l'opéra, oui, sans doute, c'est peut-être le moment. Mais c'est quand même triste, n'est-ce pas ?
Ah oui ?
Oui, c'est un très grand chanteur que j'ai entendu souvent à Marseille, puisque Jacques Carpeau avait réussi à le faire venir. Il a chanté dans Le Vaisseau Fantôme, il a chanté dans Don Juan, c'était pas un de ses bons rôles d'ailleurs. Il a chanté Philippe II, enfin, c'est un artiste magnifique. Mais sa décision est sage, parce que dans Germont, à supposer qu'il ait jamais eu la voix de Germont, c'était quand même triste.
Oui, c'est ce que tu dis, hein. Parce qu'à 40 triste, ou à 50 ans, il a réussi.
Absolument, donc c'était absurde pas de le programmer dans Germont. Et c'était
il a considéré que sa voix, avec le temps, avait monté, et qu'il pouvait se risquer à ce genre de choses. C'est dommage.
C'était pathétique, mais ça restera un très très grand.
Non, surtout que moi, il y a quelques années, ce qui était devenu problématique, c'était le volume. On ne l'entendait plus du tout. Mmh. Et la dernière fois que je l'ai entendu sur scène, j'ai trouvé que le volume était de retour. Notamment dans Germain, il avait un volume tout à fait acceptable, mais les notes ne suivaient pas. Puis stylistiquement, ce n'était pas sa tasse de thé.
Bah, justement, dans Germain, il aurait peut-être mieux valu ne pas trop entendre.
Qu'il est méchant.
Non, mais c'est
dans la mélodie, ça a été un très très grand.
Dans la mélodie, ça a été, ça reste un très très grand. Il a encore quelques
projets. Je serais plus réservé là-dessus.
Dans la mélodie française, je dis pas dans Schubert ou Schumann.
Moi, j'ai toujours trouvé un peu manquant un peu de nuance dans la mélodie française. Par contre, j'avais entendu des Schumann, les Kerner Lieder justement.
Avec Julius Drake, je crois, non?
Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'était avec Dalton Baldwin.
Baldwin,
en concert. Oui, c'était en concert. Il a fait un disque aussi, mais c'était en concert. La captation que j'ai entendue, je crois que c'était à Aix. Je ne crois pas me tromper. Et c'était prodigieux.
Thomas Delier, un baryton avec une carrière pareille qui s'arrête, ça vous inspire quoi ?
José Van Damme, pour moi, c'est surtout la ligne. Je crois que c'est vraiment ce qui caractérise sa voix pour moi. C'est, il commence à chanter, on sait exactement jusqu'où ça va aller, où il va. C'est un chant qui a une direction toujours. Alors c'est vrai que parfois, ça peut être un peu monocolore, quoi, manquer un peu de variété dans le lead ou la mélodie. Mais enfin, c'est vraiment... la carrière qui s'arrête, je sais pas, après c'est la vie, hein. Moi je trouve pas ça forcément triste, j'espère qu'ils ont plein de choses à faire autre. La carrière d'un chanteur, c'est très fatigant, c'est très long, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Je comprends très bien que même si la voix est encore là, on ait envie de faire d'autres choses, de se poser, de réfléchir, de profiter des siens. C'est... Non, c'est...
En tout cas, du cinéma ou de l'enseignement, parce qu'il avait fait le maître de musique, oui. Il y a maintenant une vingtaine d'années, qui était... Bon, oui. Enfin, on n'en parlera pas trop.
Je ne comprends pas comment il a pu faire ce film. Mais
c'était trop cruel. Si je ne m'abuse, ce film a été nominé.
Encensé.
Non seulement encensé, mais en plus, il a été nominé aux Oscars.
Ah bon ?
Meilleur film étranger.
Ça prouve que les gens ne connaissent pas grand-chose à l'opéra.
Moi, je trouve que José Van Damme n'était pas le moins bon du film.
Il faisait rien dans le film, en fait.
Il y a quand même un moment où il fait faire des longueurs sous l'eau à un chanteur et d'une performance, lui dit « Tu seras ténor ». Je ne comprends pas comment il a pu dire ça.
c'est vrai que c'est un bon test.
Surtout que c'était une méthode employée par Piero Cappuccini pour améliorer sa capacité
respiratoire. Vous savez, Thomas Delier, moi, il y a des choses comme dans Superman, je ne comprends pas comment il parvient à le faire et pourtant, c'est Superman.
Mais c'est une retraite par rapport à l'opéra ou une retraite définitive, je veux dire.
Donc il fait ses adieux à la scène. Oui. Ses adieux à la scène, à la Monnaie où il a tellement chanté. C'est une très belle chose. Voilà. Donc un grand coup de chapeau à José Van Damme. Voilà. Donc après ces nouvelles fort tristes, nous allons. Je rappelle donc la mort d'Enzo Stradello.
On n'a pas beaucoup de temps, Camille.
Voilà. nous allons écouter un extrait du Don Giovanni de Carlo Maria Giulini. C'est peut-être pas le plus représentatif, mais en tout cas, moi, c'est celui que je...
Consolare il suo tormento, si ne consolare.
Nous venons donc d'entendre l'entrée de Donna Elvira dans le Don Giovanni de Carlo Maria Giulini. C'était la flamboyante et pulpeuse Elisabeth Schwarzkopf, Frau Elisabeth Schwarzkopf, avec les forces du Philharmonia de Londres sous la baguette de Carlo Maria Giulini. Alors cet enregistrement est considéré comme l'enregistrement de référence de Don Giovanni, et pourtant quand on lit les critiques qui le concernent, on lit que du mal, à savoir que Eberhard Wächter est un Don Giovanni catastrophique, Piotr Kaminski dit que c'est un Don Giovanni aux mains moites. Sur le forum, j'ai fait un petit sondage l'autre jour, tout le monde trouve qu'il est indigne en Don Giovanni, c'était pourtant le plus bel exemple du baryton viennois de l'époque. On dit que Giuseppe Taddei a tendance à surjouer. D'ailleurs, un petit bonjour à Giuseppe Taddei qui a 95 ans passé. Toujours des nôtres. Que la stupenda John Sutherland chante ça comme si c'était du Bellini. Que Cappucci, lui, n'a rien à faire en Mazzetto. Pourtant, qui n'a rien à faire en Mazzetto? N'importe qui peut chanter ça. Même Madame Gomez, ma concierge. Et que Graziella Schutti est insupportable d'acidité en Zerlina. Et enfin, que Luigi Alva est un ténor, je cite, sans couilles. Alors, à côté de toutes ces gentillesses, que reste-t-il du Don Giovanni de Giulini? Je propose à Thomas Delier de commencer. Je suppose que vous l'avez entendu.
Oui, c'est un des premiers disques que j'ai écouté. Bah, il reste Giulini, justement. Je crois que c'est ça qui fait le prix de cette version, c'est que du début à la fin, on suit tous ces personnages avec leurs imperfections. Et c'est vrai qu'il y a à dire sur tous les chanteurs. En même temps, moi, aucun ne me dérange vraiment. J'aime bien Wächter, je trouve qu'il a une belle couleur, je trouve qu'il a une énergie. Il court vraiment vers l'abîme du début à la fin. Alors oui, des fois ça part un peu dans tous les sens, mais ça ne me dérange pas. J'aime bien Schwarzkopf, qui fait passer beaucoup de choses. Son dernier air est très très beau, d'émotion, de... Et Sutherland aussi. Il y a des couleurs dans les ensembles. Notamment, j'ai un souvenir de la transition dans le final du premier acte. La scène avec Zerlina, Mazzetto et Don Giovanni. Et trois petits accords. Talalam, talalam, talalam. Et on arrive à l'entrée des trois masques. Et le changement d'atmosphère là, les voix, l'orchestre, la direction... On est en deux secondes, on a changé complètement d'univers. Ça, je trouve que c'est vraiment le... J'ai retrouvé ça dans aucune autre version de Don Giovanni.
Christian, quand on a préparé cette émission, tu m'as envoyé un mail en disant, je te préviens, je ne sais pas si je suis la bonne personne à inviter, car je déteste cet enregistrement et pourquoi j'ai même plus écouté depuis 20 ans. Alors, est-ce que ton cerveau défaillant et rongé par Alzheimer te permettra de nous en dire quelques lignes, quelques mots, pardon?
Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'opéra, j'ai voulu acheter un Don Giovanni, donc je me suis renseigné, et les vendeurs d'un grand magasin m'ont conseillé celui de...
On peut dire des marques, on est même encouragé à le faire.
Donc voilà, à la FNAC, on m'a conseillé ce Don Giovanni, dans les revues que je lisais à l'époque, c'était considéré comme la version de référence. J'ai fini par l'écouter avant de l'acheter, et... J'ai été profondément déçu, d'autant plus que je venais d'entendre l'Opéra de Paris, un Don Giovanni dirigé par Solti, avec Roger Soyer, Kirite Kanawa, Margaret Price, tout ça. Et alors j'ai été très 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 déçu par les voix chez Giulini. La direction, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je suis assez insensible au timbre d'Isabelle Schwarzkopf. Alors je reconnais que c'est une très grande interprète, une très grande diseuse, tout d'accord, mais... Le timbre me gêne.
Pourtant, en ce qui me concerne, ce qui me gêne chez Elisabeth Schwarzkopf, c'est son maniérisme. Mmh. Elle a tendance à vraiment faire la vieille comtesse au fond de son boudoir.
Mais voilà. Et puis en plus,
mais là, dans cet enregistrement, je trouve qu'elle y va vraiment à fond la caisse.
Le maniérisme donne justement des sentiments contradictoires. C'est ça qui est très fort, c'est qu'elle fait passer des choses qui sont vraiment pas simples à faire passer. La scène du deuxième acte, c'est vraiment l'amour, la crainte, la colère, tout ça mélangé. Et justement, parce que c'est une chanteuse un peu maniériste, elle arrive à faire passer des choses très subtiles par des très petites inflexions de son contrôle. Enfin voilà.
Mais je trouve que ça manque de sensualité. Je trouve qu'elle vit. Oui, c'est vrai. Seulement un virago, une hystérique, c'est aussi une femme. Une amante outragée.
Justement, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, c'est notre poitrinée, ça ajoute au désespoir. Je trouve que c'est bouleversant. Non, et l'orchestre de Giulini là-dessus, qui est magnifique.
Une urgence.
Pour l'orchestre,
extrême,
nous sommes d'accord.
Jean-Philippe.
Moi, j'aime pas la couleur de sa voix. J'aime pas certains aigus qui sont détimbrés. Et ça me gêne parce que.
Donc on parle de Schwarzkopf de nouveau.
Oui, absolument, parce que Don Giovanni est magnifiquement écrit pour les voix et
Thomas Dolly a pas l'air d'accord.
Elvire, c'est l'un des rôles les plus casse-gueule qui existe. J'ai entendu des chanteuses extraordinaires avec des techniques prodigieuses, ne pas trouver la clé de ce rôle-là, notamment l'air d'entrée.
Thomas Dolly, ce que vous dites pour vos collègues et François Spolet en particulier n'est pas très gentil.
Alors pour les hommes, je trouve que Wächter, on a pu lire ici ou là que c'était un Don Giovanni très germanique, mais je trouve au contraire qu'il est extrêmement théâtral,
très
au meilleur sens du terme, que son couple avec Giuseppe Taddei, parfois un peu surjoué, mais fonctionne à merveille comme Don Juan comme dans le Don Juan de Mozart. Donc il y a une vraie complicité musicale et je trouve ça excellent, notamment dans les scènes, dans toute la fin. Et donc ça, c'est vraiment le point fort, je trouve, de cet enregistrement, c'est le théâtre. Sa vie, comme le disait Thomas, on suit parfaitement ce qui se passe. Et bon, voilà. Donc après, les points négatifs, ils existent. Tu les as mentionnés, Graziella Schutte est à peu près inaudible.
Ouais, c'est surtout démodé.
C'est complètement démodé.
Un chant démodé, en fait. À l'époque,
oui,
ça passait. Aujourd'hui,
on...
Et Luigi Alva.
Il faut rappeler que c'était une femme absolument magnifique, oui, qui était une très bonne actrice.
Toujours magnifique.
Mais non, elle est morte.
Mais dans son cercueil, elle a gardé une certaine beauté.
Pauvre Graziella Schutte, donc, qui nous a quittés il y a 3 ans, et dont Sylvain Faure imaginait encore le petit cœur battre là-bas en Italie.
Elle était italienne ou suisse?
Peu importe, c'est la même chose. Ils étaient contre nous à la dernière guerre.
C'est les Italiens du Nord qui sont des Suisses.
Est-ce que je peux dire quelque chose?
Non, mais laissons Jean-Philippe terminer.
Ah, non, j'ai terminé. Alors la direction de Giulini, voilà. Non, moi je l'aime beaucoup, à la différence de certaines autres œuvres qu'il a enregistrées plus tard d'ailleurs. Mais donc je sais pas si c'est l'enregistrement de référence de Don Giovanni, mais je trouve qu'il est plein d'allant, il est naturel, et à la différence du dernier que j'avais enregistré et acheté récemment, qui est celui de René Jacobs, que j'ai pas du tout aimé, à la troisième audition, parce que je l'ai aimé, pas aimé, et puis voilà, donc trop maniéré, trop.
Alors Sylvain, toi qui a crié au génie dans ta critique du Don Giovanni de René Jacobs, justement sur Forum Opéra, c'est une belle transition. Que penses-tu du travail de Monsieur Juillin, dont je rappelle aux lecteurs de Forum Opéra que Sylvain Faure avait écrit une nécrologie qui m'avait tiré les larmes. C'est un des plus beaux articles qui ait jamais publié Forum Opéra. Voici pour te mettre à l'aise.
Oui, qu'est-ce qu'on appelle un enregistrement de référence? Je sais, Camille, que toi, tu as une cinquantaine de versions de La Somnambule.
J'ai 19 versions de La Somnambule, mais c'est vraiment un hasard.
Pour ma part,
c'est vraiment un hasard, parce que je devais un jour faire une discographie comparée à La Somnambule, donc on m'a envoyé les disques, et je connais La Somnambule par cœur du début à la fin.
Pour ma part, depuis 1986, j'ai accumulé 34 versions de Don Giovanni, et donc je peux dire que si c'est une version de référence, celle de Giulini, c'est très simple, c'est parce que c'est celle à laquelle je reviens sans cesse. Voilà, j'ai adoré le Don Giovanni de Jacobs, mais je ne le mettrai absolument pas au-dessus de celui de Giulini. J'ai des enregistrements de 1937, je remonte à Fritz Busch, etc., qui sont des enregistrements prodigieux. Celui de Giulini, ce qu'il a de particulier, c'est que même si individuellement il y a des problèmes vocaux, on ne va pas dire des problèmes, mais enfin des particularités vocales un peu dérangeantes dans l'orthodoxie du chant mozartien, surtout celle qui s'est dégagée en fait depuis quelques années, puisque l'orthodoxie du chant mozartien, c'est quand même un concept assez nouveau et à mon avis assez douteux. Ce sont des personnages, et même la Schutte, qui effectivement est une soubrette, tout ce qu'il y a de soubrette années 50, marqué Aix-en-Provence, etc., c'est un personnage quand même délicieux dans les récitatifs, etc. La Sutherland dans son Non mi dire est prodigieuse, le récitatif est fait de manière extraordinaire.
Et surtout les trois voix sont bien équilibrées les unes par rapport aux autres, c'est très important.
Et c'est une équipe. Et Alva, on parle du rôle très périlleux de Donna Elvire, dit Thomas, mais le rôle de Don Ottavio est franchement complètement casse-gueule, avec deux airs presque à l'opposé d'un l'autre, un air de pure grâce et un air un peu plus héroïque, celui le dernier. Eh bien, elle va s'en tire admirablement dans les deux et compose un personnage.
Je crois en tout cas que c'est le meilleur enregistrement qu'ait laissé Luigi Alva.
Sans doute, absolument. Oui. Et c'est pas du tout un Alva sans couille, comme on dit.
Enfin, le moins...
Bah, mais il suffit d'écouter les ténors anglais qui ont livré leur témoignage dans Ottavio pour revenir à Alva et trouver une source roborative.
Voilà, un petit tour de table peut-être pour conseiller un autre regard sur Don Giovanni, une autre version que vous ayez particulièrement appréciée. Moi, ça va faire grincer certains, mais j'aime beaucoup celle d'Arnold Oestmann avec l'Elvira mélancolique de Della Jones et le très beau et le très beau Don Giovanni de
Gilles Cashmire.
Non, c'est le Borello de merde, comment il s'appelle,
de Enzo Strodella.
De Enzo Strodella. Jean-Philippe,
moi j'en resterai volontiers, à part celui-là, à celui qui est sorti chez Decca en 58 avec Cesare Siepi et Lisa Della Casa, voilà, Joseph Cripps.
Ça, c'est l'autre grande référence, Christian.
Que j'aime beaucoup, grâce à Cesare Siepi, admirable.
Oui, Cesare Siepi, c'est pour moi un des plus grands Don Giovanni, et je l'aime dans la version de Mitropoulos, qui est un live, et qui est pour moi vraiment la meilleure version de Don Giovanni. Il y a un équilibre parfait entre l'orchestre, les voix... Il y a Grumer, la plus grande Anna, enfin une des plus grandes, disons. De la Casa, Simono. Alors là, Alva peut les se rhabiller.
Mais j'aime bien Samuel Ramé aussi en Don Giovanni, ça peut surprendre.
Quelle horreur.
Mais non, Samuel Ramé, sur scène, dans le DVD.
Ce que j'aime beaucoup, c'est la couverture du disque avec Samuel Ramé.
Avec les collants blancs.
Il est ravissant. Sylvain.
Pardon, je voulais juste dire qu'au niveau Don Giovanni sur un son d'époque, j'aime celui de Gardiner, qui n'a jamais eu une bonne critique, qu'on considère comme froid. Il est un peu froid, mais il n'y a aucune voix qui soit... à côté de la plaque, et un très bel équilibre là aussi, et une très grande homogénéité.
Non, moi je recommanderais, alors dans les choses un peu plus live, il y a le seul qu'il dispute à mon avis vraiment en termes de référence au Giulini, c'est Karajan 1960 à Salzbourg, avec Eberhard Wächter, avec Simono, avec Leontine Price, avec Grumer, c'est prodigieux. Et enfin, je pense que le Don Giovanni, franchement, j'adore Siepi, Dieu sait, mais je pense que, alors il faut se faire un peu les oreilles pour l'écouter, c'est Ezio Pinza, qui a gravé Don Giovanni en 1937, je crois, avec Bruno Walter. Alors, ça gratte.
Et la même année, Les Noces, d'ailleurs.
Et c'est extraordinaire. La classe, la voix, qui en fait est une voix de baryton basse, mais assez claire. La diction, la tenue. Il est mémorable.
Alors, deux petites choses avant de passer à la vie de Thomas. Deux petites choses. Rendre hommage aussi à ce qui est pour moi le Don Giovanni actuel, c'est Peter Mattei, qui est un chanteur, une voix extraordinaire. C'est probablement, à mon avis, le plus grand Don Giovanni probablement de la discographie tout entière, qui balaye pour moi les Pinza, les Siepi, les Wächter, les Fischer Disco, les Kinley, enfin, tout cela. Peter Mattei qui est encore en exercice. Je vois les autres qui me regardent comme si je venais d'avaler une bouteille d'acide citrique. Et aussi un petit hommage à une version très rare de Don Giovanni, où Gérard Souzet tient le rôle titre et où on entend un duo magnifique entre la Donna Anna de Beverly Hills, c'est le Don Ottavio de Michel Sénéchal.
Ah, trop bien.
Ça doit être beau. Ça.
Voilà, Thomas.
Donc moi, j'ai une petite curiosité que j'aime bien, enfin qui est pas très aimée en général, c'est le Don Giovanni d'Arnoncourt.
J'aime beaucoup.
Avec Hampson, qui est très bien, et avec Roberta Alexander, qui est une chanteuse qui a fait des Yenoufa, des Janáček magnifiques, qui a la voix très abîmée, mais qui fait une Elvire vraiment cassée. Ça s'entend vraiment, parce que il y a vraiment des trous dans la voix. Mais ça a son charme, et c'est assez émouvant. Alors, pour les admirateurs, en premier, la Donna Anna de Gruberova, dont on parlait. Et c'est assez... moi, j'aime bien cette version, avec des petites particularités orchestrales. Le concert de Gabao, qui est magnifique.
Et vous, Thomas, quand Don Giovanni?
Mais j'y travaille. J'y travaille.
Vous avez des projets concrets?
Non, j'ai pas de projet concret, mais c'est un rôle qui est très, très difficile à faire, à tenir, justement, du début à la fin. C'est un rôle qui tient le spectacle... du début à la fin, sans avoir jamais de grande scène à lui. finalement. C'est le plus difficile, quoi, parce qu'il y a, les airs sont très, très courts, sont d'une tonalité, sont pas très complexes, contrairement aux autres qui font état d'affect très différent. Les airs de donjon sont vraiment dans une couleur chacun, et du coup, arriver à trouver l'énergie de tenir le spectacle avec ce matériau musical-là, c'est particulièrement difficile. Donc, c'est un rôle qui se travaille, qui se mûrit vraiment avant de l'aborder sur scène. Donc, voilà, là, je suis dans cette phase-là.
Une question qui me semble très importante, c'est est-ce que le jour où peut-être vous aborderez votre premier Don Giovanni, est-ce que vous écrirez à Samuel Ramey pour lui demander ses collants ?
Les collants, non, certainement pas. Je crois que je demanderai même au metteur en scène d'abord. Pas de collants.
Voilà, donc nous allons terminer cette émission par un petit tour de table culturelle. On avait envie de vous faire partager un enthousiasme qu'on avait eu, qui ne serait pas lyrique justement. Alors moi je vous conseille un livre paru chez Gallimard qui s'appelle Le Théorème d'Almodovar, écrit par Anthony Casasros. C'est un livre assez intéressant dans la mesure où Gallimard a reçu ce manuscrit, en tout cas c'est l'histoire qu'on raconte, d'un auteur qui ne serait plus sorti de chez lui depuis quasiment 15 ans, qui aurait écrit ce manuscrit car il était défiguré pendant un accident de voiture. Il écrit donc son histoire. C'est un livre très court, relativement intéressant. C'est peut-être pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas, c'est un très beau livre donc, qui est apparu récemment chez Gallimard. Thomas ?
Oui, moi je suis en train de lire un livre que je trouve absolument passionnant et que je pense que chacun devrait lire. C'est un livre d'un néerlandais qui s'appelle Geert Mak. Je crois qu'on prononce Geert Mak. G2ERT et MAK. Ça s'appelle Le journal d'un Européen au XXe siècle. Et ça a été écrit en 1999. Ce journaliste a passé un an et pendant chaque mois, il a fait un voyage en Europe en essayant de retracer une période du siècle. Donc c'est chronologique, mois de janvier correspond à 1900, mois de février entre 1900 et 1914, etc. Et en lisant ce livre, on vit le XXe siècle de l'intérieur de chaque pays de l'Europe et on sent vraiment se développer son identité d'Européen en voyant l'histoire à l'échelle européenne comme on ne l'a jamais vraiment apprise, en tout cas en France. Donc voilà, je recommande ça à tout le monde, c'est chez Gallimard aussi.
Très intéressant. Jean-Philippe ?
Moi, j'ai acheté dans une librairie de gare le Moyen-Âge pour les nuls dans la collection First, il me semble, aux éditions First, dans la collection pour les nuls. Et alors, le Moyen-Âge pour les nuls, qui est rédigé par un prof de Sorbonne, à qui la Sorbonne a interdit de signer sous son nom, parce que pour les nuls, ça fait pas très sérieux, et se lit comme un roman. Ça permet de mettre des tas de choses en place sur le bon roi d'Agobert, Saint-Éloi, Hugues Capet et autres.
Alors,
et
avait-il vraiment mis sa culotte à l'envers ?
Ben non, on n'en sait rien, cette chanson a été inventée à propos de Louis XVI pour se payer Louis XVI.
Mais ce serait intéressant justement de connaître la genèse de cette chanson. On en parlera au prochain podcast.
Voilà. Et donc c'est un très bon petit livre qui permet de se mettre les choses au clair sur le Moyen Âge.
Sylvain Faure.
Ouh là là, mais moi je vais faire cuistre. Mais tu m'as pris au dépourvu. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre que je recommande évidemment à personne.
Emmanuel Kant.
Qui est la traduction depuis longtemps attendue des élégies de Duineau par Philippe Jacotet. Alors voilà, Philippe Jacotet est un poète suisse d'un peu plus de 80 ans. C'est-à-dire un poète suisse qui vit dans la Drôme et qui est un poète bien connu de ceux qui aiment la poésie contemporaine.
Qui a d'ailleurs écrit des mélodies pour Peter Schreier.
Qui depuis des années avait promis de traduire les élégies de Duino de Rilke, et qui l'a enfin fait, et c'est magnifique.
Tout à fait.
Même si ça vous emmerde, de toute façon, je vous
emmerde. Non, mais ça nous emmerde. Mais qui a eu la bonne idée de publier ça ?
C'est Philippe Jacotet.
Mais l'éditeur.
C'est la Dogana, l'éditeur suisse de poésie bien connu.
De Drôme.
Voilà. Donc.
Ah, c'est un peu Rilke pour les nuls.
Ils ont publié des livres.
Si on parle pas allemand, ben c'est écrit en français à côté.
Christian.
Eh bien, moi aussi, je suis un peu pris au dépourvu. Je n'ai rien lu de bien intéressant.
Mais vous pouvez parler d'un spectacle, d'un spectacle de danse, ou bien d'un film que vous avez vu au cinéma, ou encore
d'opéra.
Oui, d'un peep show à Paris particulièrement intéressant. Quelque chose qui vous est secoué au plus profond.
La grosse Zulma est revenue au 98.
Ah, rien ne m'a secoué ces deux derniers mois.
Rien ne vous a secoué, même pas votre main droite. Pardonnez-moi. Surtout que Christian Péter est gaucher. Nous allons nous quitter sur... Nous allons nous quitter sur ces belles paroles. Nous remercions Thomas Delier qui a été
c'est un... moi, hein, je me suis un peu incrusté, mais...
Qui était un invité de marque et qui nous quitte
et
pour
qui
aller...
qui ne reviendra plus, d'ailleurs.
Et qui nous quitte pour aller à Valenciennes voir sa grand-mère Yvonne.
Merci. Ma grand-mère s'appelle vraiment Yvonne, mais c'est elle n'est pas du tout à Valenciennes.
Bravo.
Elle donc, est mariée à Philippe Jacoté, je crois.
Merci à Jean-Philippe Thiellet, à Christian Péter, à Sylvain Faure, ainsi qu'à Camille Dorisch, votre humble serviteur qui a,
merci, Camille,
merci, hein, qui a animé cette émission. Merci à Ivry Ezel, à Guillaume Robert, à Benoît Butner et merci à vous surtout.